Seigneur, est-ce aujourd'hui que vous allez restaurer la royauté en Israël ? Prenons garde, mes frères, de ne pas tout de suite reprocher à nos chers apôtres cette question adressée à Jésus. À vrai dire, elle n'a rien de saugrenu quand on sait le contexte culturel dans lequel les apôtres vivaient. D'abord, il y avait les promesses prophétiques de restauration de la dynastie davidique qui, depuis des siècles, pour ne pas dire depuis des millénaires, annonçait un Messie qui laverait l'honneur de cette seule caste apte à régner en Israël, c'est-à-dire ceux qui étaient du sang de David. Et puis, il y avait ces prédictions de Jésus lui-même. Jésus, souvenez-vous, avait dit à ses apôtres « Cette génération ne passera pas, que tout ne soit accompli. » Tout. La dénonciation de l'iniquité, un intense trouble qui passerait même par toutes sortes d'événements qui affecteraient la nature, et surtout la restauration de la justice dans toute sa plénitude. Jésus avait par surcroît annoncé à ses apôtres, « Vous qui avez tout quitté pour me suivre, vous siégerez sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. » On peut très bien comprendre, il n'est pas interdit en tout cas de le faire, que les apôtres aient vu dans ces mots de Jésus l'évocation de fonctions ministérielles, politiques, qu'on allait leur confier sans doute. Et il n'y avait là aucun égoïsme, mais la volonté de servir, la volonté de Dieu et ce roi juste qu'était Jésus une fois arrivé sur le trône de David. Vraiment, je crois qu'il y avait lieu de se méprendre sur la nature du royaume lorsque le Christ parle à ses apôtres et qu'il est sur le point de monter à la droite de son père. Alors il n'est pas étonnant dans ces conditions, puisque légitime était cette mauvaise compréhension des apôtres, il n'est pas étonnant que Jésus, devant cette demande des apôtres, ne se soit pas mis en colère, comme il lui est arrivé par le passé plusieurs fois de le faire. Arrière Satan, tes voix ne sont pas mes voix, passe derrière moi, ou encore génération incrédule, combien de temps devrais-je encore être parmi vous et vous supporter ? Le Seigneur ici, devant la question de ses apôtres sur la restauration de la royauté davidique, ne sombre pas dans la colère. Le Christ ne leur dit même pas « Vos espérances sont vaines, cessez d'attendre quelque chose qui n'arrivera jamais ». Non, il leur montre au contraire qu'ils ont raison d'aspirer à une royauté du Christ, qu'ils ont raison d'aspirer à quelque chose de grand. Mais d'une manière un peu voilée, voilà que Jésus leur montre qu'en réalité, leurs attentes sont un peu étriquées par rapport aux siennes, à celles de Jésus. Nous le savons en effet, Jésus ne pouvait pas se satisfaire d'exercer sa souveraineté sur la seule Palestine. C'est un lopin de terre et ça ne convient pas à la dignité du Seigneur de se circonscrire dans cette petite portion de territoire. Il voyait plus grand, il voyait même infiniment plus grand. Il voulait et il veut toujours régner sur toutes les nations. Depuis sa résurrection, son humanité a acquis, nous le savons, nous ne cessons d'en parler chaque année, son humanité a acquis un droit à régner sur toutes les nations. Lui qui s'est anéanti, nous dit saint Paul, chaque semaine sainte, c'est le leitmotiv de la semaine sainte, vous le savez, il s'est anéanti, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement exalté et il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Jésus a conquis donc, par sa mort et sa résurrection, un droit à régner sur toutes les nations dans son humanité, et il entend bien que ce droit, enfin, se traduise concrètement par un règne effectif. Il faut distinguer le droit de Jésus à régner, qui est acquis définitivement sur toute réalité sur cette terre, et même au-delà de cette terre dans l'univers, de la réalisation effective de ce règne universel de Jésus, dont nous constatons trop bien chaque jour qu'il n'est pas du tout mis en œuvre. La réalité effective du royaume universel de Jésus, de la royauté, de la souveraineté universelle de Jésus, ça se saurait si elle existait, ne serait-ce que sur notre propre existence. Alors quant aux nations, n'en parlons pas. Du reste, plus qu'un règne sur les institutions nationales, sur les patries, qui sont tout à fait légitimes, que l'Église a toujours reconnues dans cette souveraineté de Jésus, ce qui intéresse notre Seigneur, bien évidemment, c'est que chaque cœur lui soit profondément uni et lui soit acquis en toute liberté. Paradoxalement, comment Jésus s'y prend pour pouvoir établir ce règne sur les cœurs et partant sur les nations? Je dis paradoxalement parce que c'est en quittant cette terre et en siégeant à la droite de son Père, invisiblement désormais, qu'il va mieux asseoir son règne sur les cœurs et sur les nations. Avouez que c'est quand même assez étonnant. Lorsqu'un roi veut étendre son règne, il fait savoir à tout un chacun qui il est, quelles sont ses volontés, pour ne pas dire ses quatre volontés, et gare à celui qui résisterait, parce que les bras séculiers de ce roi viendraient immédiatement emprisonner tout opposant. Si l'on parle d'un roi qui veut vraiment établir un règne universel. Jésus, il va bien au contraire d'une démarche d'effacement. Il se rend absent physiquement et il se rend présent d'une autre manière afin que notre cœur et que toutes nos institutions puissent un jour se rallier à sa cause. Observez la façon dont ça se passe. Le Seigneur Jésus était de son vivant, c'est-à-dire pendant sa vie terrestre, car il n'a jamais cessé de vivre, lorsqu'il était sur cette terre, s'est rendu accessible à ses apôtres parce qu'il avait un visage, parce qu'il avait des mains, parce qu'il parlait, qu'on pouvait l'entendre, parce qu'il faisait des miracles, parce qu'il compatissait à leur sort. Bref, le Seigneur Jésus saturait de sa présence ses apôtres. Pourtant, quelque chose de sa divinité était déjà voilé, bien entendu, à telle enseigne que certains ont vu en lui simplement le fils du charpentier de Nazareth, nous le savons bien, et qu'ils en sont venus à rejeter ce Seigneur Jésus. Mais enfin, cette présence était très consolante pour ses apôtres. Et il a pu ainsi commencer à conquérir non seulement les 12 et les saintes femmes, mais déjà des foules entières qui venaient à lui, et qui venaient à lui pour la bonne raison. Parce qu'ils croyaient en lui et parce qu'ils avaient pour lui un certain amour. Le Seigneur se disait que cet amour était encore insuffisant. La preuve, lorsqu'il se fait arrêter et lorsqu'il se fait mettre en croix, qui est au pied de la croix ? Saint Jean, encore qu'il ait sans doute lâché le Seigneur la veille au Jardin des Oliviers, la Vierge Marie, Sainte Marie-Madeleine et puis quelques personnes encore et c'est tout. Preuve, s'il en fallait, que ses apôtres, et a fortiori les disciples, c'est-à-dire le deuxième cercle, quant aux foules n'en parlons même pas, n'étaient pas encore suffisamment attachés à Jésus. L'amour n'était pas encore suffisamment intense pour... n'était pas encore à la hauteur de ce que Jésus en attendait. Alors le Seigneur a dû user d'une thérapie toute particulière qu'on appelle le sevrage. Le sevrage, c'est... un moyen qu'on utilise pour, en privant quelqu'un d'une chose qu'il aime bien, renforcer, si l'on veut, ou plutôt rectifier l'attachement de la personne à ce bien dont on le prive. C'est exactement ce qui se passe avec l'ascension. Le Seigneur Jésus se retire, lui qui est aimé de ses 12, des femmes, des saintes femmes et des disciples, et même des foules. Voici que pour se faire davantage aimer d'eux, et pour se faire mieux aimer d'eux, de manière plus droite, de manière plus solide, de manière plus inconditionnelle, se retire de leur regard et se retire de cette présence charnelle qu'il assurait jusqu'alors. C'est une épreuve, en réalité, que le Seigneur impose pour mieux nous attacher à lui. Et il éprouve d'abord notre désir. Tout amoureux le sait bien. Rien ne tue davantage l'amour qu'une reddition sans condition immédiate de la personne que l'on aime. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe là. Le Seigneur Jésus se sait aimé de nous et il ne se rend pas immédiatement à nous et inconditionnellement. Il n'accède pas tout de suite à notre désir parce qu'il sait qu'alors notre désir en souffrirait. Il sait que notre désir se flétrirait et que notre amour diminuerait pour lui. Il veut exciter notre désir en se rendant moins facilement accessible. C'est une stratégie que tout un chacun sait utiliser. Il faut savoir se faire aimer, il faut savoir exciter le désir chez l'autre. Vous voyez, c'est quelque chose de très naturel et de très universel dans l'humanité. Mais il y a encore plus avec le Seigneur. Le Seigneur veut éprouver notre confiance en nous faisant avancer comme à tâtons. Il veut que nous le suivions, il veut que ses apôtres le suivent, mais dans la figure de ses apôtres, c'est nous-mêmes qui sommes représentés, au son de sa simple voix, au son de sa simple parole, en suivant les indices de sa présence qui sont bien réels, mais qui évidemment ne valent pas la présence plénière, si j'ose dire, du Seigneur, avec son corps de gloire, avec son visage, avec un toucher qui nous permet d'accéder à lui, qui est le sens par excellence de la relation amoureuse. Le Seigneur Jésus, donc, veut que nous approchions comme à tâtons de lui par une sorte de jeu de piste. Quel est ce jeu de piste ? Quels sont ces signes de sa présence qui nous permettent de ne pas totalement désespérer tout de même, mais qui demandent que nous ayons d'abord confiance en sa parole ? Ce sont les sacrements. Qu'est-ce qu'un sacrement ? C'est un signe sensible d'une grâce. C'est un signe sensible de Jésus-Christ, de la présence de Jésus-Christ. Le sacrement signifie ce à quoi il renvoie. Il signifie la présence de Jésus et en même temps, il cache la présence de Jésus. Voilà ce qu'est un sacrement. À la fois, il dévoile et en même temps, il cache. Et c'est de cette présence toute nouvelle pour les apôtres, et nous sommes habitués depuis l'enfance à cela, pour la plupart d'entre nous, mais il faut savoir goûter cette nouveauté avec les apôtres, c'est cette présence toute nouvelle du Seigneur, sur un mode très humble, déroutant bien sûr, mais réel, que le Seigneur entend purifier notre amour pour lui, qu'il entend, par ce sevrage qu'il nous impose, nous attacher davantage à lui. Que veut-il faire en réalité ? Il veut nous élargir le cœur, il veut accroître notre amour, de sorte qu'enfin nous soyons en mesure de l'aimer vraiment. Vous le savez, il faut, pour prétendre devant quelqu'un que nous l'aimons réellement, il faut, non pas quelques mois, mais il faut quelques années, sinon quelques décennies, pour pouvoir en toute authenticité dire à l'autre, vraiment, je t'aime. Eh bien, c'est ce qui se passe avec le Seigneur. Il faut que cet amour entre deux êtres ait été éprouvé, soit passé par le creuset du sevrage, parfois, justement, soit passé par le creuset de la difficulté à faire confiance. Et il faut avoir marché pendant de longues années à la simple voix de l'autre. Je t'aime, je veux vivre avec toi toute ma vie. Je t'aime, mais non, je ne vois pas la preuve que tu m'aimes. Je t'aime, je te redis que je t'aime, tu le sais bien. J'ai donné ma vie pour toi. Nous nous avons uni nos existences pour toute la vie dans le sacrement de mariage. Tu le sais bien que je t'aime. Voilà. Il faut accepter pendant de longues années de passer par l'épreuve du feu, par le creuset de la souffrance. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe. L'analogie amoureuse est celle choisie par Dieu même pour rendre compte de ce qui se passe entre Dieu et notre âme. C'est exactement ce que le Seigneur fait avec nous. La même chose que dans une relation amoureuse, disons, en infiniment plus noble, il nous demande d'accepter de passer par ce creuset de la souffrance, par cette présence-absence qui est bien sûr coûteuse pour nous et qui en même temps n'a pour seul but, je vous le redis, que d'élargir notre cœur, de sorte que nous soyons vraiment en mesure, un jour, d'entrer dans la présence du Christ, dans cette chambre nuptiale que représente l'Apocalypse, qui est la Jérusalem céleste, qui est le ciel, où nous pourrons vivre des épousailles optimales avec le Seigneur Jésus, parce qu'enfin nous serons en mesure d'être attachés à lui, de recevoir en plénitude cet amour qu'il nous propose. Vous voyez que c'est une délicatesse de la part de Dieu, en réalité, que de se rendre absent au regard de ses apôtres le jour de l'ascension, que de se rendre absent à nos propres regards et à nos propres sens externes, pour nous pousser à nous satisfaire de sa présence dans les sacrements ou dans la parole de Dieu. Alors ce n'est qu'après de longues années que nous serons aptes à dire au Seigneur, Seigneur Jésus, viens. Vous savez que c'est le dernier mot de l'Apocalypse. Viens, Seigneur Jésus, venez, Seigneur Jésus. Venez, je suis enfin prête. Moi, l'épouse, pour les noces éternelles d'avec vous, je suis enfin prête. Mon cœur est élargi. Je peux recueillir tout ce nectar de votre amour et y répondre amour pour amour. En méditons, si vous le voulez bien aujourd'hui, quelques instants d'ici ce soir sur ce mystère incommensurable de l'ascension, et plutôt que d'en tirer de la tristesse en se disant que cela implique un deuil pour les apôtres, notez que les apôtres ne sont pas du tout dans la tristesse, mais qu'immédiatement, plein de joie, nous dit-on ailleurs que dans les textes d'aujourd'hui, ils vont tout de suite prêcher Jésus-Christ, ils vont tout de suite commencer leur mission, ils n'attendent même pas de recevoir la plénitude du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Alors ne soyons pas, nous non plus, suivons cet exemple des apôtres, ne soyons pas dans la tristesse, et lorsque notre vie spirituelle ne va pas bien, souvenons-nous de cela, souvenons-nous qu'il s'agit de la part de Dieu, d'une pédagogie. Cette séparation a pour but de permettre une plus grande union ultime. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.